Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs du 101.5 de Radio G et sur le radio-g.fr. Aujourd'hui, nouvelle rubrique à l'assaut, alors qui est très enrichissante et passionnante, disons-le directement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Vio, donc CCAS, enfin chef de projet sur CCAS, sur un énorme projet. Et quel bonheur de vous recevoir. Bonjour Monsieur Vio, dites-nous tout.
Oui, bonjour, donc Nicolas Vio. Alors je ne suis pas salarié du CCAS, hein. Je suis salarié d'une association qui s'appelle l'IFRAES. Le CCAS est un partenaire précieux dans l'action. Et donc on porte là depuis fin 2019 un plan d'action de lutte et de prévention contre l'illettrisme.
Alors pourquoi je parlais du CCAS? C'était tout simplement pour dire un grand bonjour à notre ami Hervé Roth.
Allez, bonjour,
qui est à l'écoute, donc, et avec la plus grande attention. Alors Nicolas, l'illettrisme, en quelques mots, explication, qu'est-ce que l'illettrisme?
Alors l'illettrisme, on va parler des gens qui sont adultes, âgés de plus de 16 ans, qui ont été scolarisés en langue française et qui, pour différentes raisons, à un moment donné, ont désappris ou ont oublié, et aujourd'hui qui ne sont plus capables d'assumer seuls certains actes de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Voilà, donc ça, c'est une vraie difficulté, on en reparlera, et tout c'est une difficulté qu'on ne voit pas parce que ces personnes-là parlent aussi bien que toi ou moi.
Et voilà. Alors, l'illettrisme, effectivement, c'est quelque chose qui est méconnu, disons-le ouvertement, mais avec une certaine population en termes de chiffres assez conséquente quand même.
Oui, les dernières études là, qui avaient été faites, donc elles datent un petit peu maintenant, hein, par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est un petit peu l'organisme au niveau national qui porte et qui coordonne un certain nombre d'actions. Il y avait à peu près 2 500 000 personnes en situation d'illettrisme lors de ces dernières études en 2011, ce qui représentait à peu près 7% de la population âgée entre 16 et 65 ans. Donc on peut s'imaginer, hein, que sur 100 personnes autour de nous, hein, 7 peuvent être à des degrés divers en situation d'illettrisme.
Alors 2011, 2021 ou 10 ans, je pense qu'on peut ouvertement, sans le moindre risque, afficher 10% de la population en situation d'illettrisme.
Alors il va y avoir une prochaine étude là, qui sera faite en 2023-2024. On espère qu'il y en a moins, mais par rapport aujourd'hui aux rencontres et puis aux situations qu'on peut rencontrer sur le terrain, on se rend compte que la problématique est encore bien présente.
Alors, comment est arrivée cette idée, ce projet? Comment s'est structuré cet ensemble?
On avait une association qui était un peu historique sur Angers, qui s'appelait le LEC, l'IREC raconté, jusqu'en 2018, et qui a malheureusement été mise en liquidation judiciaire. La ville d'Angers s'est emparée immédiatement de la problématique, a invité des partenaires, dont nous faisions partie, pour réaliser un diagnostic sur la ville d'Angers. Et on a fait des préconisations, et ces préconisations ont été retenues par le maire d'Angers. Ce qui nous a permis, fin 2019, d'engager un travail, et donc de mettre en place une coordination. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas d'être une grosse structure avec beaucoup de salariés qui portent l'ensemble des actions, mais plutôt de coordonner et d'être un appui aux acteurs déjà présents sur le territoire. Donc il y a différentes étapes, hein, dans ce projet-là. Tout d'abord, c'est informer, sensibiliser toute personne bénévole ou professionnelle qui est en situation d'accueil ou d'accompagnement. Donc ça représente la quasi-totalité de la population d'Angers, hein, si j'allais à l'extrême. Et puis ensuite, c'est pouvoir orienter ces personnes-là vers des actions qui sont adaptées à leurs besoins, à leur situation, à leur niveau. Il ne s'agit surtout pas de proposer effectivement des formations traditionnelles pour leur rappeler un petit peu le système éducatif, hein, traditionnel, où on est à une table avec un crayon devant un enseignant. Je caricature un petit peu. Mais on ne peut pas reproposer ça à des personnes qui, à un moment donné, ont été en rupture et pour qui ça a été difficile.
Alors effectivement, on a bien noté effectivement la volonté forte de la ville d'Angers de s'investir effectivement dans cette problématique de taille. Comment on arrive à cerner l'illettrisme chez un individu?
Alors là, c'est toute la complexité. C'est-à-dire que une personne en situation d'illettrisme, on est quand même sur des sujets assez tabous. Il y a beaucoup de souffrance, parfois et même souvent de la honte. Et ces personnes qui sont en situation d'illettrisme mettent en place des stratégies de contournement ou d'évitement pour pas être repéré. Donc ça rend très difficile effectivement le repérage, parce que comme je vous le disais, ce sont des personnes qui parlent très bien français, sont francophones, elles sont nées en France, elles ont été à l'école pendant quelques temps en France. Et donc il faut repérer des indices qui nous permettent de voir que la personne est en train d'éviter ou de contourner la situation qui la met à un moment donné dans l'obligation d'écrire ou de lire. Et puis, une fois que ça s'est repéré, c'est comment on en parle et comment on lui en parle pour lever un petit peu le tabou et puis lui proposer des solutions qui soient adaptées à la relation qu'elle a avec les apprentissages, qui est souvent un peu difficile.
Alors, il y a des incidences méconnues, disons-le. Pour expérience personnelle, la semaine dernière, je suis allé donner mon sang à l'établissement français du sang. Un questionnaire de plus d'une bonne cinquantaine de questions. Ça veut dire que là, on se prive directement de ces personnes qui ne savent pratiquement pas écrire. Donc, on se prive de ces personnes juste pour quelque chose qui est, je dirais, complètement à l'extrême de l'illettrisme, qui devient des questionnaires techniques, oui, très précis.
Tout à fait. On est dans une société de l'écrit. Donc, c'est-à-dire que l'écrit est partout. Ces personnes-là vont vivre progressivement une forme d'isolement social, parce qu'elles vont se mettre en marge d'un certain nombre de situations, qu'elles soient professionnelles, familiales, personnelles, citoyennes. On pourrait parler du droit de vote, aller voter, lire les programmes. Donc on a toute une partie de la population qui se trouve en marge un petit peu de la société et qui pourtant ont énormément de compétences, parce que pour compenser dans une société de l'écrit le fait de pas lire et le fait de pas d'écrire, faut développer quand même dans un système D où on développe quand même d'autres compétences. Il y a une vraie intelligence aussi derrière, et c'est important aussi de le souligner.
Alors, dans cette situation que je qualifierais de dramatique en 2020 T1, comment se positionne l'IFRAES, dont tu es le directeur? Voilà, on va parler d'IFRAES maintenant, savoir les moyens d'action et l'action propre.
Alors l'IFRAES aujourd'hui, c'est un salarié, mais c'est aussi énormément de partenaires sur le territoire. C'est-à-dire qu'on travaille avec les organismes de formation, on travaille avec les associations pour avoir un maximum d'acteurs qui puissent repérer les personnes en situation d'illettrisme, faire un premier travail pour leur redonner envie de retourner vers l'écrit et la lecture. Et puis ensuite, on a nous des actions qui viennent un petit peu en aide aux partenaires, ce qu'on appelle des actions diagnostiques, pour voir un petit peu où la personne en est, sans être dans un test scolaire. Donc là, on a des outils ludiques ou en situation qui permettent de voir où en est la personne. Et puis des actions d'apprentissage qui vont s'appuyer sur des supports plutôt d'animation, des supports du quotidien, voire dernièrement une action qui a été mise en place en lien avec un chantier d'insertion qui s'appelle les ateliers d'Eddy Conso, de pouvoir retourner vers la lecture, l'écriture et les maths à travers les situations de travail. Pour que ça ait du sens, il faut qu'il y ait une utilité. C'est-à-dire que imaginons que je suis en situation d'illettrisme, je ne vais pas aller apprendre pour apprendre. Je vais aller apprendre parce que ça a une utilité, et ça n'a pas une utilité dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ça a une utilité maintenant. Donc c'est là qu'il faut qu'on soit inventif et qu'on sorte des traditionnelles formations où on va passer 7 heures à une table à réapprendre des règles de grammaire, d'orthographe, à réapprendre à lire et à écrire. Ça peut avoir une utilité, mais après.
Et pas pour tout le monde. Effectivement, nous évoquions tout à l'heure la problématique de l'enseignement dans jusqu'à la 6e, en fait, véritablement, où on se rend compte que des classes à 30 personnes, il y a systématiquement un décrochage potentiel, de toute façon, quoi. Alors, l'IFRAES est financé comment? Comment ça fonctionne, tout ça?
Donc aujourd'hui, on a des partenaires comme le CCAS d'Angers, la ville d'Angers, qui a été la première, on va dire, à investir, ce qui nous a permis de faire un effet de levier auprès d'autres partenaires. Aujourd'hui, on a aussi la CAF de Maine-et-Loire, hein, qui nous soutient. Et puis ensuite, sur des actions spécifiques, on va chercher des financements à droite ou à gauche pour que ça tienne. On a le département qui intervient, on a la politique de la ville sur certaines actions dans les quartiers, le plan pauvreté qui nous a aidé là sur l'action en lien avec l'emploi. Donc on essaie d'être un peu opportuniste, d'aller chercher l'argent où il y en a pour essayer que ça tienne. Et puis surtout d'être de toucher le plus grand nombre de territoires. C'est-à-dire oui. que notre difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une action sur le quartier de Montplaisir, par exemple, mais pas de l'avoir sur la Roseraie Belbeil. C'est d'avoir une action sur demain, peut-être sur le quartier de Saint-Aubin, mais pas un autre endroit. Donc il nous faut des moyens, effectivement.
Alors, j'allais rebondir un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, on sait tous, effectivement, que quelqu'un qui est victime d'illettrisme sait pertinemment s'exprimer. Parler de façon complètement naturelle, d'où la difficulté suprême effectivement d'arriver à cerner ces problématiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet package où effectivement motiver des gens à venir s'exprimer à la radio sur les ondes, qui les ferait en même temps s'inciter quelque part à se dire ben oui effectivement je souffre de telle situation, mais le fait de libérer la parole va implicitement libérer le reste.
Ça fait partie effectivement des supports qu'on cherche à privilégier. C'est-à-dire qu'après avoir fait ce premier travail de repérage, de ce que nous on appelle de médiation, pour que la personne ait envie d'aller vers une action, s'appuyer sur un outil comme la radio, par exemple, hein, comme tu le cites, ça peut avoir un intérêt parce que c'est aussi extrêmement valorisant. C'est aussi se donner à entendre tout le travail qu'on a fait. Et puis, ça permet de mobiliser l'écrit, ça permet de mobiliser la lecture, la prise de parole aussi. Et puis, de reprendre confiance aussi dans ses capacités avant de repartir sur un autre projet de formation ou même vers l'emploi.
Voire même se décomplexer complètement, effectivement, de cette difficulté.
Tout à fait, complètement.
Alors, aujourd'hui, quels sont les plans d'action mis en place par l'IFRAES ? Quelle est la ligne directrice de tout ça ?
Alors, on essaye d'avoir différents supports. Comme je vous disais, on a construit, nous, un plan d'action dans une logique de parcours, c'est-à-dire qu'on essaye, pour une personne, de proposer des marches vraiment accessibles qui lui permettent d'aller jusqu'à l'emploi. Ou vers une vie citoyenne, une vie familiale où il va pouvoir être complètement autonome. Donc je le disais tout à l'heure, il y a des actions diagnostiques qu'on propose, donc en individuel ou en collectif. On a des actions autour des apprentissages, une action qui s'appelle Passe Compétences, là, qui va bientôt démarrer fin novembre, où là on est avec des formateurs, mais ce sont des supports de type animation. Et puis ensuite on se rapproche de l'emploi. Et là, on a des actions en lien avec l'emploi pour permettre à des personnes de retravailler l'écrit, la lecture et le calcul à partir des situations. Et puis, il y a d'autres partenaires. Il y a la région qui a aussi un dispositif qui s'appelle Prépa-Clé. Mais ça nécessite d'avoir levé un certain nombre de freins avant d'y accéder. Donc, tout l'intérêt de faire tout ce que nous, on fait avant. Et puis, surtout, comme je le disais tout à l'heure, tout ce travail d'information, de sensibilisation auprès des publics. Et puis là, actuellement, c'est un appel que je lance sur Radio G, c'est aussi avoir des bénévoles qui ont une sensibilité à cette question, quelles que soient leurs compétences, qui puissent accompagner en individuel ou en tout petit groupe ces personnes qui ont peut-être d'abord besoin sur des temps courts de se remettre en confiance et de se tester.
Alors, au-delà de toutes les instances effectivement qui soutiennent ce cadre et ce projet que l'on salue en même temps, effectivement tout seul on ne peut pas tout faire. Alors rebondissons sur le sujet, effectivement de qui a besoin, de quelle personnalité a besoin l'IFRAES pour pouvoir étendre son projet et le réussir pleinement.
Il faudrait effectivement pouvoir aujourd'hui peut-être avoir un soutien salarié supplémentaire. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis coordinateur, mais aussi sur le terrain. Donc ça, en 35 heures à l'échelle d'une ville et d'une agglomération, c'est effectivement une grande ambition, même si on a des partenaires investis, des bénévoles qui puissent aussi accompagner, évidemment, il ne s'agit pas de les laisser tout seuls, mais sur les quartiers, qui puissent aussi reproposer des sessions en proximité, parce que la difficulté aussi, c'est de proposer des actions où on va demander à la personne de faire 3 km, de traverser la ville. Quand on est en situation d'illettrisme, on a parfois aussi des difficultés pour se déplacer, se repérer, et donc avoir des actions proche de chez soi, c'est la première marche aussi qu'il faut mettre en place.
Alors, de quel type de bénévole a-t-on besoin ?
Ce matin, j'ai rencontré un petit peu le profil du bénévole idéal. Donc, c'est super. C'est quelqu'un qui est pré-retraité de l'enseignement et puis qui a toujours eu à cœur de proposer un petit peu des pédagogies alternatives et qui est prêt à donner du temps. Mais on peut avoir aussi tout simplement quelqu'un qui va donner de son temps pour travailler un petit peu la lecture, accompagner, travailler un petit peu l'écrit sans forcément avoir été enseignant. Il faut simplement être prêt à donner un peu de son temps. Nous, on propose un accompagnement, évidemment, hein, pour outiller un petit peu le bénévole et puis l'accompagner tout au long de son parcours. Et puis, construire une petite équipe, voilà, qui puisse répondre aux besoins de ces personnes.
Alors, un grand appel est lancé auprès des auditeurs et auditrices de Radio G. Allez-y. Venez rencontrer effectivement Nicolas Vio à l'IFRAES parce qu'on a besoin de vous, on a besoin. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment partager, s'enrichir au travers de données aux autres. Donc voilà, l'appel est lancé et on vous donnera toutes les coordonnées en fin d'émission.
Merci.
Alors, quelles sont les grandes lignes que l'on peut citer pour motiver tous les bénévoles à venir te rejoindre ?
Alors, à l'IFRAES, on envisage le bénévolat tout d'abord comme un acte totalement libre et il faut que ça soit du plaisir. C'est-à-dire que moi, je vais pas faire signer un contrat de bénévolat ou je ne vais pas faire signer une convention. On vient quand on est disponible, on donne le temps que l'on peut avec les compétences que l'on a. Donc, qu'on souhaite s'investir plusieurs heures par semaine ou uniquement une heure par semaine sur un temps, il suffit de se le dire. Et moi, ça me convient entièrement. Donc, on y rentre progressivement dans le bénévolat. Donc non, j'ai pas d'attente particulière. C'est à construire avec aussi les envies, la personnalité, le parcours du bénévole qui aura forcément quelque chose à apporter pour aider ces personnes.
Oui, effectivement, on a une problématique aujourd'hui qui est de taille. C'est la difficulté de recruter des bénévoles. Et c'est vraiment dans tous les domaines. Et c'est quelque chose qui est vraiment très dommageable parce que on reçoit beaucoup de choses en termes de connaissances du réseau. On donne beaucoup aussi, ou tout au moins ses propres connaissances, et c'est un enrichissement personnel et non
démoindre. Oui, et puis c'est un travail d'équipe, hein. C'est pas du bénévolat pour remplacer des professionnels. C'est vraiment travailler main dans la main, en équipe, et ne pas considérer qu'on fait appel au bénévolat parce qu'on n'a pas suffisamment de salariés. C'est absolument pas ça, hein. Nous, dans notre cas, on accompagnera vraiment l'équipe.
Alors, on disait effectivement d'aborder tout à l'heure, en termes de chiffres, on a abordé effectivement, on dit pratiquement 10%. À qui la faute ? Est-ce qu'on peut. Si ça permet de cibler, de mieux cerner les gens dans cette problématique ?
C'est une question effectivement importante parce que souvent, on a tendance à pointer du doigt l'éducation nationale en disant si on a des personnes âgées de plus de 16 ans en situation d'illettrisme, c'est qu'à un moment donné, l'éducation nationale a été en difficulté, mais. Les situations d'illettrisme, ça peut être des accidents de la vie, ça peut être lié à une multitude de facteurs, à une fragilité à un moment donné.
Alors tous ces gens qui connaissent le problème, un seul mot, un seul contact.
Donc c'est l'association IFRAES, on a un numéro vert, hein, le 0800 11 10 35. On a un site internet aussi, hein, appli-illettrisme.org, où vous pouvez lancer un message. Et puis, vous revenez vers Radio G si vraiment vous n'arrivez pas à trouver mon contact. Je pense qu'ils vous le donneront avec grand plaisir.
Oui, alors de toute façon, vous pourrez écouter cette émission en podcast sur le site de Radio G, la rubrique à l'asso. Et puis, pour toute prise de contact, une adresse unique pour tous ceux qui veulent participer à cette rubrique, c'est relations extérieures, au féminin pluriel. En un seul mot, désolé pour les gens qui ont un petit problème d'illettrisme, @radio-g.fr. Donc je recommence relations extérieures, féminin pluriel, en un seul mot, @radio-g.fr. Alors mardi prochain, vendredi prochain, effectivement, nous aurons le Labo des Savoirs, Jean. C'est bien. Ou non, c'est la découverte des plantes. Décidément, c'est ma journée. La découverte des plantes, vendredi prochain. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour une autre rubrique particulièrement intéressante aussi, toujours dans l'aide aux autres, dans l'associatif. Ceci étant dit, bonne
solidarité, environnement,
bon
humanité, partage, culture, découverte, science,
et puis avec grand plaisir de se retrouver et construisons tous ensemble ce fameux projet.
Avec grand plaisir.
À l'assaut.
Hervé, un vendredi sur deux à 13h sur le 101.5 FM de Radio G, retrouvez à l'assaut la chronique dédiée aux associations.
Radio G.